15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h et c'est en direct avec le docteur Jimmy Mohamed ici du lundi au vendredi sur Europe 1. On parle des petits et des gros bobos. On essaye de vous rassurer aussi quand c'est possible, de vous aiguiller en tout cas. On fait aussi appel aux meilleurs experts dans leur domaine pour vous éclairer. Alors Jimmy, vous allez bien?
Très bien, et vous Mélanie?
Et oui, vous attendiez pas à ça. Je dis bonjour docteur Jimmy Mohamed, tout
mais
ça.
Mais je reste réactif.
Bon, ça va, très bien. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'incroyable pouvoir de la musique sur les jeunes enfants. Les neurosciences l'ont prouvé depuis peu, elle a un rôle essentiel pour l'être humain et ça, dès le plus jeune âge. Avec notre invitée, Claudia Caspillai, spécialiste en pédagogie musicale, vous verrez que la musique est un outil incroyable. Dès la crèche, cela permet de bon développement des enfants et ça aide aussi dans l'apprentissage du langage. Et plus étonnant encore, ça les préparerait même aux langues étrangères. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la mention non substituable à poser par les médecins sur certaines ordonnances, eh bien, cette mention ne suffit plus pour que les patients ne se voient pas remettre un médicament générique. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, il sera question des médicaments à base de cortisone. À quoi servent les corticoïdes qu'on vous a déjà peut-être prescrits pour une laryngite, par exemple? Eh bien, on verra aussi si ces traitements comportent des risques. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Une question: lors du premier rapport sexuel, la perte de sang chez la femme est-elle un passage obligé? Catherine nous dira tout.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Ben.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy Mohamed, Ben, 40 ans de Massy. Je vous appelle car j'ai une question à propos de ma petite fille qui a ses gencives qui saignent quand elle se brosse les dents. J'aimerais savoir ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut changer pour une brosse plus souple par exemple? Je vous remercie pour votre réponse et j'en profite pour vous souhaiter une belle année.
Ah, merci beaucoup Ben, bonne année à vous aussi. Alors, le saignement des gencives, Jimmy, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission plusieurs fois. On y revient et c'est normal, c'est un bobo très fréquent. 3 Français sur 4 saignent régulièrement des gencives au brossage. Et Jimmy, on est d'accord, il faut le prendre au sérieux. Alors là, c'est un enfant, c'est encore un peu particulier.
Oui,
mais...
c'est vrai que c'est un peu plus rare chez l'enfant, mais c'est souvent lié à une mauvaise technique de brossage de dents. Donc, même si vous saignez un petit peu des gencives, il faut prendre ça en considération. Donc, soit on se brosse les dents de façon trop agressive, et c'est souvent le cas chez les enfants qui ont un geste un peu anarchique et un geste qui va aller de gauche à droite de façon horizontale.
Mmh, au lieu
alors
d'aller
qu'il faudrait
de
aller
la gencive vers
le
bas de la dent.
Bas.
Ouais.
C'est de cette façon qu'on peut éliminer les résidus et la plaque dentaire. Ou parfois, c'est lié à une brosse à dents qui serait trop dure, un poil trop dur, alors qu'il faudrait avoir quelque chose de plutôt souple ou médium. C'est ce que recommandent les dentistes à ce moment-là.
D'accord. Alors, un mauvais brossage, vous l'avez dit, ou alors un mauvais geste, mais ça peut être aussi les saignements, le signe d'une maladie gingivale. Alors bon, peut-être pas chez l'enfant, mais chez l'adulte en tout cas.
Voilà, exactement. Et d'autant plus qu'il y a un retard diagnostique chez les fumeurs, car on en avait parlé, le tabac cautérise la gencive, ce qui fait qu'on ne saigne pas tout de suite. Et donc, on a un retard de prise en charge dans les gingivites chez le fumeur. Mais effectivement, quand ça saigne, ça peut être lié au fait qu'on a des bactéries qui sont présentes de façon naturelle dans la bouche. Et lorsqu'elles sont associées à des débris dentaires, des débris alimentaires, puisqu'on s'est mal brossé les dents, ça forme la plaque dentaire. Et cette plaque dentaire peut entraîner la gingivite, qui est l'inflammation de la gencive. C'est rouge, ça, c'est gonflé, ça saigne, ça fait mal. Et puis, ça peut avoir des conséquences.
Mais justement, alors, c'est quoi les conséquences? Parce qu'on la banalise, mais ça peut être grave, la gingivite.
Oui, on en a parlé, c'est 8 Français sur 10. Et ça peut évoluer vers une maladie parodontale. Donc, c'est ce qui, la parodonte, c'est tout ce qui entoure la dent. C'est le tissu de support de la dent. La gencive en fait partie, mais ça peut évoluer. Et ça peut être aussi l'os. Et donc, ça peut évoluer jusqu'à un déchaussement dentaire lorsque les soins dentaires ne sont pas effectué.
Et donc, Jimmy, si on saigne, eh bien, on consulte très rapidement, en fait. C'est
oui,
ça, surtout
que
c'est pas normal de saigner les dents.
C'est pas normal, on se brosse bien les dents, du fil dentaire, du bain de bouche tranquillement, pas tout le temps, pas tous les jours. Consultation dentaire et ça passe en règle générale.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Frédéric, 35 ans, on l'écoute.
Bonjour, docteur Mohamed. Bonjour, Mélanie. Voilà, j'ai entendu parler de la maladie de Charcot. Ça a l'air horrible, mais il n'y a pas de remède en plus, c'est ça? Comment est-ce qu'on peut l'attraper?
Alors Jimmy, c'est un peu difficile de répondre si rapidement quand même sur une maladie aussi grave, mais on va faire peut-être une émission bientôt qui sera consacrée à cette pathologie. En tout cas, bon, Charcot, la maladie de Charcot, c'est quoi un peu plus précisément?
Alors on appelle ça aussi la sclérose latérale amyotrophique, donc la maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative du système nerveux, donc qui touche les neurones moteurs. C'est une maladie qui est plutôt rare, c'est moins d'une personne sur 2000, et ça entraîne une faiblesse musculaire progressive qui entraîne par la suite une paralysie qui peut apparaître à n'importe quel niveau du corps. Ça évolue sur quelques quelques années. Ça peut toucher les quatre membres jusqu'à la tête. On distingue deux formes. Une forme qui atteint plutôt les membres, on appelle ça la forme spinale. Et puis une forme qui touche initialement les muscles et la bouche, et on appelle ça la forme bulbaire.
D'accord, alors juste pour répondre à la question de Frédéric, c'est pas contagieux, c'est pas quelque chose qu'on attrape comme ça. Hein,
non, exactement, c'est pas contagieux. On sait que la maladie est multifactorielle, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une influence de la génétique et de l'environnement. Dans l'environnement, on n'est pas très sûr encore.
C'est mystérieux.
On suspecte le tabac, les pesticides, les métaux lourds, mais encore une fois, on n'a aucune preuve formelle. C'est 10%. Dans 10% des cas, on a des formes familiales, ce qui veut donc dire que dans 90 autres des cas restants, on ne sait pas trop. Quelques pistes sur l'inflammation, des facteurs de croissance, mais la recherche doit progresser.
D'accord, alors on n'a pas le temps aujourd'hui de dire tout, mais en tout cas, le pronostic, il est toujours sombre.
On découle la maladie en règle générale entre 50 et 70 ans. Le décès survient dans les 3 à 5 ans et le traitement est symptomatique, kinésithérapie, antispasmodique, prise en charge de la douleur, mais pas traitement curatif.
Bon, et la recherche est active sur le sujet. Les perspectives sont même encourageantes en ce moment. Donc, pour aider la recherche, justement, on peut tous contribuer. Je vous donne les coordonnées d'une association. Son site, c'est arsla.org, l'association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Vous pouvez tous faire un don, il n'y a pas de petit don. On peut faire tous avancer la recherche. Voilà. Alors, si vous aussi, comme Frédéric, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21, 50 centimes d'euros la minute.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la mention non substituable sur certaines ordonnances. Elle ne suffit plus pour éviter d'avoir un médicament générique. Il va nous expliquer pourquoi. Et puis, on accueillera aussi notre invitée, Claudia Caspiaghi, avec qui nous allons parler des bienfaits de la musique et de la pédagogie musicale. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invitée, Claudia Caspiaghi, avec qui nous allons parler de pédagogie musicale chez les tout-petits, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une loi entrée en vigueur en janvier, là au 1er janvier, concernant la délivrance, ou plutôt la prescription de médicaments génériques. Avant, il suffisait pour le médecin que vous êtes d'écrire NS, non substituable sur l'ordonnance, à côté d'un médicament, pour que le pharmacien délivre au patient pas le générique, le médicament de marque. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, juste avant de parler de cette nouvelle règle, rappelez-nous quand même rapidement, c'est quoi un générique ?
Un générique, c'est un médicament qui a été conçu à partir d'un médicament qui est déjà autorisé, qui existe déjà. On appelle le médicament Princeps. Et c'est un médicament dont le brevet est tombé dans le domaine public après 10 ans de commercialisation. Le médicament générique a la même composition qualitative et quantitative. Et il peut varier simplement avec l'excipient. L'excipient, c'est ce qui accompagne le médicament et qui permet à principe actif d'agir dans l'organisme, et ça permet notamment de donner la couleur, l'aspect ou le goût d'un médicament.
Mais alors, est-ce qu'il y a un intérêt à refuser le générique ?
Dans l'immense majorité des cas, aucun. Non. Ces médicaments, ils sont moins chers, ils permettent de faire des économies, et en plus ils ont permis de faire baisser le prix de certains traitements. C'est vrai notamment sur les traitements anti-paludisme, qui ont drastiquement baissé dès lors que le générique est tombé. Même chose aussi dans les médicaments du trouble de l'érection. Avant, ça coûtait très cher. Désormais, ça coûte nettement moins cher. Et puis, il ne faut pas oublier que lorsque vous avez une angine, une entorse, une mycose, il n'y a aucun intérêt. Je vois des patients me demander
le médicament
original. Ça n'a strictement aucun intérêt. En revanche, il faudrait que les médecins prescrivent en dénomination commune internationale, c'est-à-dire qu'on ne prescrit pas le médicament, c'est-à-dire
en écrivant la marque.
Voilà, on n'écrit pas Doliprane ou Efferalgan.
Après, c'est un peu plus compliqué. Ça demande. Vous les connaissez tous, vous, les noms des nominations communes. Il faut avoir le Vidal à côté de soi,
oui,
aller chercher le nom.
Et avoir la bonne orthographe. Ouais. Et c'est vrai que c'est une solution de facilité, mais nous, les médecins, on a aussi un travail de pédagogie à faire.
D'accord. Alors, c'est quoi les nouvelles règles, justement ?
Alors, comme vous l'avez dit, écrire non substituable ne suffit plus. Désormais, on pourra avoir des génériques dans 3 situations. La première, c'est quand le médicament est à une marge thérapeutique étroite. C'est-à-dire que l'effet du traitement, la dose efficace, est pas loin de la dose toxique. Et on sait que les génériques peuvent varier un petit peu d'une marque à une autre.
Des médications très sensibles. Hein,
exactement. Et donc, ça concerne des traitements spécifiques comme les antiépileptiques, les hormones thyroïdiennes, notamment le lévothyrox, certains immunosuppresseurs. Et là, le médecin doit écrire NS, non substituable, MTE.
MTR.
MTF, pardon. Non, enfin, un code, excusez, MTE, marge thérapeutique étroite. Chez l'enfant de moins de 6 ans, lorsqu'il n'y a pas d'équivalent de générique avec le même aspect. Et enfin, lorsque le patient aurait une contre-indication formelle à un excipient à effet notoire, comme le lactose, certains comme l'amidon de blé, l'huile d'arachide. Et là, il doit écrire NS, CIF.
Très bien. Alors, en dehors de ces trois situations, si on refuse le générique, il se passe quoi finalement ?
Alors, on peut refuser le générique, on a le droit, mais à ce moment-là, il faut avancer les frais, c'est-à-dire qu'on doit payer, on ne bénéficie pas du tiers payant. Le pharmacien vous donne une feuille de soins et vous serez remboursé sur la base du prix du générique, qui est forcément moins cher, donc vous perdrez un petit peu d'argent. Encore une fois, pas de panique, acceptez les génériques. Il y a des situations où on ne les donne pas, marge thérapeutique étroite. Dans l'immense majorité des cas, tout se passe bien.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour, c'est Claudia Caspillahi. Elle est l'auteure du livre « Petite enfance, de la musique avant toute chose » aux éditions d'Uno.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour Claudia.
Bonjour Mélanie.
Alors, dans votre livre, vous expliquez comment et pourquoi la musique est un outil fondamental au service de l'épanouissement des enfants, des tout-petits, cela dès la naissance, même avant, on en parlera. Mais je crois que d'une façon plus globale, votre ouvrage il s'inscrit totalement dans ce qu'on dit aujourd'hui. On s'est rendu compte vraiment de ce consensus de l'importance des 1000 premiers jours, de l'enfant.
Il se trouve que c'est une actualité, puisque le président Macron a lancé la commission des 1000 premiers jours avec 17 sages qui travaille sur le parcours de la parentalité, et ça amène une prise de conscience de l'importance des 1000 premiers jours. Donc c'est un moment formidable, parce que jusqu'à présent on avait tendance quand même à se dire un bébé, bah, ça mange, ça boit, ça dort,
et puis voilà,
il n'y a plus grand chose qui se passe, sauf que non, c'est là où l'essentiel se passe, beaucoup de choses se passent, et de façon déterminante.
Et vous, la musique justement, elle a sa place intégralement dans ces 1000 premiers jours. Vous, dès la naissance, vous préconisez ça comme un outil, et c'est quelque chose d'ailleurs que vous avez expérimenté, que vous expérimentez encore, dans le réseau de crèches que vous avez créé, que vous avez fondé, ça s'appelle Cap Enfant, ça fait plus de 10 ans que vous faites ça, vous utilisez la musique, c'est quoi concrètement ce réseau
voilà,
de crèches ?
Ça fait 15 ans que nous utilisons la musique et c'est le vecteur clé, c'est-à-dire que c'est plus que de l'éveil musical, la musique est vraiment la trame de fond. On rentre dans un voyage musical par l'ouïe, donc c'est un voyage multisensoriel, ludique, et ensuite on touche les autres sens qui sont bien sûr le toucher, la vue, le goût et l'olfaction également.
Jimmy ?
Et justement, l'éveil des tout-petits avec justement ce monde sonore, le monde musical, c'est quelque chose qui a été prouvé au travers des neurosciences, on a des preuves scientifiques de l'effet bénéfique ?
Oui, depuis 20 ans, en fait, énormément d'articles scientifiques sont sortis, mais il y a beaucoup d'ouvrages, et notamment grâce à l'élaboration d'outils tels que l'IRM, encéphalogramme, etc., qui permettent de façon non intrusive de prouver ce qui se passe dans le cerveau. Et donc, on peut observer ce qui se passe, les réactions du fœtus, on peut observer un nouveau-né, on peut voir ses réactions, on peut voir la zone de parole s'éveiller, on peut voir
ce qui se passe
cerveau,
quand on le confronte à de la musique.
Exactement,
hein,
voilà, tout ce qui bouge. Donc ça, c'est déjà une grande avancée, une grande percée qui permet de soutenir tous ces articles. Et il y a beaucoup de travaux qui sont sortis et de chercheurs, notamment Isabelle Pérez, qui est une Canadienne neuroscientifique qui travaille depuis 30 ans dessus. Mais il y a aussi des Français, Manuel Bigand, Hervé Platel, plein de chercheurs qui commencent à faire paraître maintenant des articles au grand public.
Alors Claudia Caspillahi, on fait que commencer ce voyage au cœur de la musique dans l'univers des plus petits. Vous restez avec nous dans un instant. On va rentrer un peu plus dans le détail. Vous verrez que les bienfaits de la musique, on peut en faire profiter son bébé dès la vie fœtale. Et oui, c'est peu connu, mais dès la 5e semaine de grossesse, le système auditif se met en place et on peut donc le stimuler. On va tout vous expliquer. Mais d'abord, c'est notre sujet du jour, donc on vous offre un peu de musique. C'est Loose and the Yakuza, ça s'appelle Dilemme.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée, Claudia Caspillahi, spécialiste de la pédagogie musicale. Alors Claudia, d'abord dans votre livre, vous expliquez la musique pour avoir un bébé épanoui, c'est très utile, mais qu'on peut commencer finalement dès la vie fœtale. C'est pas, on n'attend pas d'avoir juste un bébé, on peut le faire avant ça, hein, c'est ça ?
Parce qu'en fait, l'enfant est dans un environnement musical in utero lui-même. Il est soumis à des battements, enfin à des rythmes qui sont les battements cardiaques, qui sont les pulsions du sang, la respiration, enfin beaucoup d'éléments rythmés.
C'est très bruyant en fait. Hein.
En fait, c'est toujours, c'est jamais silencieux. Il y a du rythme et du son, donc de la mélodie, donc de la musique. Et l'enfant, il grandit dans cet environnement musical et c'est ça qui permet aussi sa maturation du cerveau et notamment sur le plan langagier, puisque tout ce qui est l'écoute, l'ouïe se développe et l'enfant, en fait, in utero, donc le fœtus, apprend déjà à parler, se familiarise avec le langage in utero. Mais pas que seulement avec le langage, avec plein d'autres choses aussi.
Et ça commence tout petit, hein, l'embryon déjà, hein, c'est ça?
C'est l'embryon. C'est assez fascinant de s'imaginer que déjà à 9 semaines, l'enfant perçoit de façon tactile, pour le coup, les sons. Et les sons graves, hein, ça c'est quelque chose que l'on garde ensuite à vie. On sent les pulsations sur la peau. Et ensuite, l'oreille, avec sa construction qui est assez complexe, prend le relais entre 4-5 mois. Là, les articles scientifiques arrivent de plus en plus tôt.
Jimmy ?
Et en pratique, qu'est-ce qu'une femme enceinte peut faire ? Chanter, écouter de la musique
Ben c'est ça. Déjà, prendre conscience, je pense, de l'intérêt, de l'importance de la musique et du chant. Donc, chanter, écouter de la musique. Alors, bien sûr,
faux, c'est pas grave.
Mais peu importe. En fait, ce qui passe au travers de la voix, c'est l'émotion.
Donc, on va pas le faire souffrir si on chante comme une casserole, l'enfant.
Pas du tout. Pas du tout. On va lui faire du bien parce qu'à partir du moment où on a du plaisir soi-même à chanter, à danser, à écouter de la musique, l'enfant le perçoit. Et ça, c'est extrêmement bon pour son développement cervical, cognitif et tout ce qui va avec.
Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus parce que ce bébé, il a des petites oreilles en formation sensible. On ne colle pas une enceinte avec du hard rock près du ventre si on
Surtout
aime ça.
Surtout pas. Alors, jamais coller d'enceinte sur le ventre puisqu'il pourrait faire caisse de résonance et là, ça serait dramatique.
Alors ensuite, il y a la naissance et vous dites qu'à ce moment-là, le bébé, il entend comme jamais il entendra de sa vie.
C'est ça. Hein. C'est ça. Et c'est assez extraordinaire. En fait, l'enfant, il naît avec une oreille musicale. Il naît avec un cerveau câblé musicalement. Pourquoi ? Parce que c'est parce qu'il a grandi dans cet environnement musical qu'il entend musicalement. Et c'est le fait d'entendre musicalement qui va lui permettre d'apprendre à parler, mais pas que, il y a aussi l'aspect social.
Timmy ?
Et justement, comment exploiter cette capacité auditive hors du commun dès la naissance ?
C'est justement... être beaucoup dans l'interactivité avec l'enfant. Et là, c'est aussi un peu l'objet de la commission des 1000 jours. Mais l'interaction avec l'enfant est extrêmement importante. Donc, tout ce que l'on peut faire, chanter, interagir avec l'enfant, d'abord la maman, le papa, mais aussi tous les proches, va conduire l'enfant à découvrir son environnement avec tous ses sens. Et ça va le construire dans ses émotions, sur le développement cognitif.
Et ça va l'aider à apprendre à parler aussi.
Va l'aider à apprendre à parler parce qu'il va entendre des sons, il va les associer, il va entendre biberon, il va associer ça au biberon et c'est comme ça qu'il va apprendre à parler.
Et puis, ce qui est très intéressant avec la musique, vous expliquez que ça favorise plusieurs sens à la fois, vous venez de le dire, c'est l'ouïe, la vue, le toucher, c'est un peu moins clair, l'ouïe je comprends bien, mais le toucher comment tout ça c'est lié en fait?
Le toucher c'est aussi lié avec justement cette capacité que l'on a de sentir les sons graves, donc l'enfant il
perçoit... On sent la musique dans sa peau quoi.
Perçoit beaucoup, il est très sensible au toucher, il perçoit vraiment les battements graves, enfin tous les sons graves, les fréquences graves au travers de la peau. Et puis ensuite, le toucher, c'est aussi la motricité, c'est bouger, c'est se balancer, c'est être dans le rythme.
Jimmy ?
Donc il y a la musique, et là vous parlez de rythme et de tempo, ça a aussi une importance ?
C'est essentiel, et ça c'est quelque chose qui m'a stupéfaite, parce que c'est... pas connu, mais en fait très, très étayé dans les articles scientifiques. On grandit dans un environnement... rythmique. Cet environnement rythmique, l'enfant, il apprend le rythme, donc la pulsation. Et il apprend à anticiper la pulsation et à répondre au bon moment. Ça parle de synchronisation. Ce qui veut dire que quand l'enfant naît, il va se synchroniser. C'est ce qui va lui permettre de se synchroniser avec les personnes de son entourage. Donc, l'écouter, répondre au bon moment et commencer à être dans les interactions et donc dans la relation. Donc, le rythme...
Le rythme même de la langue française, hein. Vous dites, bon, parce qu'on est en France,
rythmes,
mais un enfant africain, il va être rythmé au langage de à une autre langue. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est chaque enfant qui naît dans un pays, il est préparé à ce rythme-là de sa langue maternelle, hein, c'est ça?
Et de sa langue maternelle, de la musique, etc. Mais c'est le rythme qui lui permet de devenir un être social. Et ça, je trouve ça assez énorme.
Et c'est utile aussi pour les enfants un peu plus grands. On va parler après de ce que vous faites en crèche, évidemment. Mais pour un enfant de 10 ans, par exemple, il y a encore une utilité à utiliser la musique. Ça va lui servir à quoi ?
Il y a énormément. Là, on parle donc de l'aspect social et langagier. Mais il y a énormément de bénéfices, de bienfaits qui vont être au niveau de la lecture, qui vont être au niveau des mathématiques, de la
l'appréhension. C'est-à-dire des mathématiques. Comment la musique, ça rentre dans les mathématiques ?
La musique...
Jimmy, il a l'air un peu circonspect.
Ah,
La musique, elle a une structure mathématique. Elle a des rythmes, c'est très logique et c'est très complet. Donc, c'est cette appréhension de ces rythmes et de
les tables
ces
de
temps,
multiplication, par
qui
exemple.
Ne doivent pas être. Oui, par... alors ça, c'est encore autre chose. Les tables de multiplication, là, c'est pour apprendre, c'est pour mémoriser. Après, il y a la concentration.
Et les apprendre en chantant, c'est ça, en fait.
Exactement.
L'idée.
Donc là, on touche plusieurs,
vous imaginez
plusieurs sens
trois fois
et plusieurs
un,
axes.
Trois fois deux,
et ça permet de mieux mémoriser.
Pourquoi pas, si ça peut être une méthode pour que les enfants progressent, oui.
Complètement. Donc, il y a énormément de bénéfices qui sont bien au-delà du langage et de l'aspect social. C'est sur les apprentissages de scolaires, notamment.
Donc, la musique à tout âge. Alors, Claudia Kespiaï, on va continuer cette discussion dans quelques minutes. Bien sûr, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va vous expliquer tout ce qui se fait dans les crèches musicales fondées par notre invité. Dans ces crèches, les enfants dès 3 mois sont plongés dans une bulle musicale avec des lumières aussi. On les stimule, on les cajole, on les laisse se défouler aussi au rythme du djembé avec des résultats spectaculaires sur leur épanouissement. On va tout vous expliquer. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invitée Claudia Kespiaï, spécialiste en pédagogie musicale. Elle a aussi fondé un concept de crèche musicale, ça s'appelle Cap Enfant. Alors Claudia, maintenant on va parler de ce que vous proposez quand même aux bébés, aux jeunes enfants que vous accueillez dans vos crèches. Donc chez vous, la musique, elle est partout. C'est un outil d'éveil, d'apprentissage, on l'a compris, d'éducation même. Et ça va, chez vous, ça démarre dès les premiers jours d'adaptation en crèche, je crois. Vous leur proposez quoi quand ils arrivent à deux mois et demi, trois mois, hein, c'est ça, les plus petits, c'est cet âge-là.
La musique, elle est par petites phases, hein, c'est pas constamment, elle est par petites phases, mais tout au long de la journée, et y compris pour les bébés, ce qui est assez nouveau, parce que d'habitude, il n'y a pas beaucoup d'activités pour les bébés. Et là, les bébés, donc 0 à 1 an, bénéficient de morceaux de musique, que de petites comptines, et ils peuvent aussi aller avec les professionnels dans la bulle musicale, écouter, découvrir.
On va parler de la bulle après, mais voilà. Plus en détail.
Voilà, j'anticipe un peu, mais et aussi avoir des interactions avec des enfants plus grands qui sont présents dans l'atrium, par exemple, et qui vont chanter, danser, où on va avoir des musiciens qui vont jouer d'un instrument de musique.
Alors vous dites l'atrium, il faut quand même expliquer aux gens que vos crèches, elles sont construites, même au niveau architectural, d'une façon particulière. Hein,
voilà,
c'est
un peu en marguerite, il y a la place centrale qui est un peu la place du village, et au milieu de la place du village, il y a la hutte qui est la bulle musicale, et tout autour les sections de vie. Donc voilà, c'est un peu cette disposition.
Jimmy ?
Il y a aussi, j'ai cru comprendre, un sas sonore dès l'espace vestiaire qui permet de séparer la crèche du monde extérieur. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est ?
Oui, tout à fait. L'idée, c'est que lorsque les parents et les enfants arrivent dans le sas, ils puissent déconnecter soit avec leur environnement professionnel, soit avec l'univers de la maison ou
les
la
bouchons,
voiture,
la
les
pluie.
Bouchons, etc., tout ce stress, et rentrer dans cet environnement.
Ça du bien, vous dormez le matin, ça.
Je pense que oui, on serait peut-être un peu plus aimé.
Voilà, bon, bah, c'est cette fonction de déconnexion et de connexion aussi avec ce nouvel univers de la crèche.
Et donc, la bulle musicale, on y vient quand même. C'est quoi votre bulle? Parce que c'est quand même quelque chose que vous avez créé, inventé. C'est génial, ouais. Expliquez-nous. Bah, alors, c'est un peu visuel, dommage, on le voit pas là, mais bah, expliquez-nous,
en fait, décrivez-nous
là.
C'est comme un igloo, c'est la forme d'un igloo. On peut être 10, 12 dedans avec un groupe d'une dizaine d'enfants. Et il y a des portes, enfin, il y a des ouvertures sans porte et les enfants pénètrent. C'est donc un outil pédagogique multisensoriel. Les enfants pénètrent dans cette petite salle, en fait, en forme d'igloo, et ils vont appuyer sur des zones tactiles qui vont
sur
déclencher
les parois,
des sons
sur les côtés, par exemple,
qui sont
hein.
sur les parois à différentes distances et qui vont déclencher des sons qui sont des sons d'animaux, des sons de musique, de comptines, d'instruments, des ambiances sonores ou des paroles. Et donc, l'enfant va être acteur. Ça, c'est extrêmement important. C'est lui qui va décider si oui ou non il a envie d'écouter quelque chose. Et ce qu'il a envie d'écouter, ce qui donne des histoires assez incroyables de ce point de vue.
Et il y a de la lumière aussi, hein, de la simulation visuelle aussi, je crois.
Alors, il y a de la lumière que l'on peut tamiser aussi. Elle est pas, on n'est pas du tout dans une boîte de nuit, on est vraiment, on va adapter en fait l'intensité lumineuse en fonction de l'ambiance que l'on a envie d'obtenir.
Et je crois qu'il y a même un micro à l'intérieur de la bulle. Ouais. Ça sert à quoi ça? Ouais. C'est pour apprendre à parler notamment aussi.
C'est aussi pour apprendre à écouter sa propre voix, et les enfants adorent ça. Et chanter en plus sur une chanson et entendre sa propre voix devant un petit groupe d'enfants, ça travaille la valorisation, ça travaille l'estime de soi, la confiance en soi, c'est fabuleux pour les enfants.
Jimmy ?
Et qu'est-ce que vous faites d'autre justement pour stimuler et faciliter l'apprentissage du langage, notamment grâce au son et à la musique ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ?
Bah, les enfants, en fait, entendent énormément de sons, et ces sons qui sont, par exemple, on va dire des animaux, où on va écouter une histoire musicale. Donc, on va voir un puma et puis on va voir tout d'un coup une trompette. Et on va inventer une histoire en disant, ben voilà, il y a le puma qui va jouer de la trompette. Mais ça, c'est les enfants qui composent. Donc, ils travaillent leur imagination et leur créativité. Et en faisant ça, bah, ils travaillent de nouveaux univers de mots, de langage qui ne sont pas l'univers quotidien du langage dans la crèche. On va parler tout d'un coup, si on part en Australie, de didgeridoo, du kangourou, on va parler de la steppe, on va parler de la mer. Et ce sont des environnements avec des mots qui vont permettre à l'enfant de découvrir, d'écouter, de jouer avec des sons. Alors, dans un premier temps, il va entendre le mot didgeridoo, puis après, il va répéter ce mot-là, qui n'est pas forcément facile. Mais là, justement, on travaille la mémoire, la concentration, et les enfants le répètent avec beaucoup de plaisir.
Et ils parlent tous à 7 mois dans cette crèche. Vous les mettez à plusieurs, d'ailleurs, je crois que vous venez de le dire. Ça aide aussi à la sociabilité, hein, c'est ça,
c'est
pour
ça.
La musique, ce lien.
Exactement.
C'est ça, hein.
Ils jouent beaucoup ensemble, c'est-à-dire que, alors, déjà, ils vont interagir, à écouter, appuyer sur les zones tactiles, par exemple, et puis découvrir un loto sonore. Donc, c'est le premier qui va découvrir le loto sonore. On va d'abord entendre un son, il va falloir deviner ce que c'est, puis ensuite l'image apparaît. Et c'est une image statique. Et donc, l'enfant, il va deviner, c'est le premier qui devine. Après, on va écouter une chanson, on va la chanter. Donc, les enfants vont chanter entre eux, et c'est celui qui va chanter un peu plus fort. Il va y avoir de la manipulation d'instruments aussi, mais des instruments comme des violons ou des didgeridoo, enfin, ce genre d'instruments un peu particuliers. Et à ce moment-là, eh bien, il faut écouter, il faut respecter son tour, il faut écouter le copain, il faut être concentré, attendre. Et ça, ce sont des règles de vie sociale.
Alors, je reviens sur les plus petits, les enfants de 3 à 7 mois. Vous expliquez dans votre livre que le bébé à cet âge-là, il a une écoute très active, il est très sensible, et qu'avec eux, bah, vous pouvez par exemple leur faire découvrir des instruments étrangers. Vous avez parlé du didgeridoo, mais par exemple, il y a aussi cet instrument japonais. Je vous laisse écouter un petit morceau. Alors, cet instrument, vous allez nous dire comment il s'appelle. C'est un instrument japonais.
C'est le misatobu.
Très bien. Et ça permet quoi avec les enfants d'écouter ça?
D'entendre.
C'est assez aigu, c'est joli.
Voilà, d'autres univers sonores qui sont différents de leur environnement naturel, franco-français, s'ils sont dans cet univers-là, ou bilingue, etc. Et ça, c'est extrêmement important, notamment parce qu'entre 0 et 1 an, le jeune enfant a une capacité auditive totale et universelle. C'est-à-dire qu'il est en capacité d'entendre toutes les langues du monde et toutes les musiques du monde, et de discerner les dissonances, les consonances,
ah oui,
etc.
Ils sont plus forts que vous, Jimmy, en musique. Vous
avez vu.
Plus forts que nous trois, de nous tous adultes. Et ça, c'est assez stupéfiant, parce qu'un jeune enfant va entendre parler hindi, il va discerner des subtilités de l'accent que ni vous, ni moi, Mélanie, ne discernerons
plus. Vous imaginez un
Donc,
peu, Jimmy.
Ça, ça c'est bien, oui. Une capacité formidable, et si on permet à ces enfants de continuer d'entendre cette variété de sons, bah, on leur donne un peu des outils pour que derrière, ils puissent effectivement mieux apprendre des langues étrangères, mieux discerner des sons, peut-être être moins dyslexique, etc.
Alors, la musique, ça contribue aussi au bon développement de la motricité. Et là, vous pouvez utiliser dans vos crèches, par exemple, des mélodies plus rythmées comme ça. Ça vous plaît, Jimmy, non?
Ils ont beaucoup de ça, effectivement, mais oui, ils adorent ça.
Et ça danse, ça bouge, c'est ça l'idée, en fait, hein, de mettre des choses plus rythmées. Il y a aussi le djembé que vous utilisez parfois.
Voilà.
L'idée de la musique, ça a fait du bien au développement, psychique, mais aussi moteur, hein, c'est ça?
Exactement, moteur, parce que là, de nouveau, bah, y a aussi cette idée de vivre ensemble, d'être en synchronisation, de danser ensemble. Ça développe aussi l'empathie, hein, la musique, ça c'est aussi impressionnant. Et ça, c'est au travers notamment du rythme. Un enfant, naturellement, ira plus vers une personne qui sera dans le rythme que pas dans le rythme.
Ah, c'est méchant ça, parce que celui qui danse mal et qui...
Ah, je comprends mieux pourquoi mes
vous
enfants
m'habitent. Vous n'aviez pas d'amis quand vous étiez enfant.
Mais oui, mais je comprends mieux. Ben oui, effectivement, ben voilà, tout s'explique.
Ben voilà, et ça c'est vrai, voilà.
Et je crois qu'ensuite, vous tenez compte de l'identité musicale de chaque enfant oui. et que ça voudrait dire qu'après un an, il aurait déjà des goûts en matière de musique.
Mais déjà, quand il arrive, l'environnement fœtal dans lequel il a grandi lui a donné déjà certaines appréciations.
Et votre mère, Jimmy, raconte toujours que vous aimiez déjà le rap tout petit.
Ah oui, mais comme quoi, voilà, ça n'a pas changé 33 ans plus tard. 32,
voilà, donc cet environnement-là, il est déjà vraiment dans le cerveau musical de l'enfant. Le fait d'ouvrir ou de tenir compte de cette identité musicale permet à l'enfant de sentir des repères qui sont des repères de la maison. On a une petite fille notamment qui est arrivée en crèche, qui ne parlait pas en français et qui parlait que tamoul. On était dans notre voyage en Inde, elle a entendu du tamoul et elle s'est ouverte, elle a été rassurée. Donc ça, c'est extrêmement important parce que l'enfant se sent plus en confiance.
Moi, on mettait du flamenco quand j'étais petite parce que Gomez, vous voyez,
oui,
je me sentais
oui.
beaucoup mieux. Ah oui, voilà. ça sert vraiment à tout ça, c'est incroyable.
Donc voilà, ouais. Et ça, il y a énormément, il y a une autre histoire qui
m'a... Et ça permet de les valoriser, c'est ça, parce que vous dites cette petite fille tamoul qui tout d'un coup s'ouvre. Là, c'est parce qu'elle s'est reconnue dans quelque chose qu'elle avait peut-être plus l'habitude d'entendre. La musique, c'est ça, ça permet de renforcer aussi la confiance en soi pour l'enfant, hein, c'est ça ?
Exactement, parce que l'enfant, il va jouer avec il va chanter devant les autres enfants,
donc
il va
être
valorisé,
scène,
il va se mettre en scène, on va encourager, il y a une histoire d'une petite fille qui n'osait pas tellement chanter devant les autres, et puis finalement la professionnelle l'a encouragée, puis elle a fini par bomber le torse et chanter, être très contente. Une autre petite fille chantait le tube du mois, parce qu'on a le tube du mois dans la langue du pays, et elle est allée dans chacune des sections chanter le tube du mois.
Alors c'est pas Booba et Caris, hein,
mais c'est chacun ses références, hein, Mélanie.
Ça, c'est la comptine russe ou autre chose.
Voilà, hein, mais ça, c'est des marques de reconnaissance. Oser chanter devant les autres, se produire déjà tout petit, c'est pas forcément facile pour...
Oui, ça permet de se positionner dans le groupe. Ça aussi, la musique, ça aide à ça.
Exactement. Hein,
c'est ça. Et dans cette pédagogie musicale, vous nous l'avez dit déjà plusieurs fois, mais vous leur faites vraiment découvrir des musiques d'ailleurs. Et c'est ce que vous appelez d'ailleurs donc le voyage musical. Il y a la bulle musicale et le voyage musical. Chaque mois, vous êtes dans un pays, j'ai l'impression, comme cette musique mexicaine. Je vous propose d'écouter un petit bout.
Guapa, guapon.
Ah, finalement, la musique mexicaine, ça a l'air de vous plaire aussi, Jimmy. Hein,
oui, c'est pas mal. Il y a aussi la nourriture mexicaine.
Et ça fait partie des initiations. Alors bon, là, c'est de la musique. Il y a pas de chant derrière. On n'entend pas les gens qui parlent mexicain et tout ça. Mais leur faire connaître donc des musiques étrangères, des chansons étrangères, avec ça a vraiment prouvé ça, que ça aide à apprendre les langues étrangères par la suite.
Oui, ça c'est prouvé. Ça maintient cette capacité universelle que l'enfant a naturellement jusqu'à à peu près un an. Et dans cette période sensible, jusqu'à 3-4 ans, qui est la période sensible de l'acquisition du langage, plus l'enfant entend des sons différents, plus il va jouer avec et plus il va les combiner. Et ça, c'est justement le propre de l'apprentissage du langage.
Donc nous, on peut le faire aussi à la maison, leur faire écouter des chansons mexicaines, australiennes, je ne sais quoi.
C'est d'une richesse pour l'enfant, pour soi déjà, et puis pour l'enfant, et c'est un partage de plaisir et d'émotions extraordinaires.
Et ça peut les aider justement dans l'entrée à l'école. Est-ce qu'il y a des études qui prouvent que ces enfants-là ont peut-être certaines acquisitions plus rapidement ou de meilleure, on va dire, qualité ?
Oui, il y a beaucoup d'études qui prouvent un peu à tous les âges, dès la maternelle, mais jusqu'à l'adolescence, que les enfants développent effectivement sur le plan cognitif une meilleure lecture, un meilleur vocabulaire, un meilleur langage, de la créativité, de l'imagination, une forme d'aisance que l'on retrouve aussi dans les relations, avec une forme d'empathie, la capacité de concentration, de mémoire. Ça, c'est ressorti dans à peu près toutes les études qui ont été faites, que ce soit en Europe et aux États-Unis particulièrement.
Et alors, ça a l'air quand même génial, vos crèches. On a tous envie d'y mettre nos enfants, hein, Jimmy. Mais bon, j'imagine que les enfants dans vos crèches, ils sont comme tous les autres enfants. Il y a des jours où ils sont en colère, il y a des jours où ils sont fâchés, il y a des gros chagrins, ils n'ont pas envie d'écouter de musique. Ça sert aussi à ça, la musique, alors, à les faire évacuer un peu aussi, parce que du négatif, il doit bien y en avoir aussi. Il y a des pleurs dans vos crèches aussi.
Partout, absolument. Et ça, justement, la musique est un bon véhicule aussi pour externaliser.
Qu'est-ce que vous faites, là, justement, par exemple
ces émotions. Par exemple, on utilise le djembé, on va commencer avec des enfants qui sont un peu excités, on va commencer par les faire taper sur le djembé très très fort, et puis ensuite on va baisser, on va diminuer le rythme petit à petit, jusqu'à ce qu'on tapote comme une petite fourmi qui tape sur la peau du tambour. Donc, et les enfants rentrent dans cette dans ce jeu.
Alors, pour terminer, juste les enfants qui sortent de vos crèches après avoir passé, je sais pas, 3 années passionnantes bercées dans la musique, ça devient quoi? Des virtuoses derrière de la musique? Il y en a peut-être qui ont réussi, mais c'est pas le but quand même non plus. Hein.
C'est pas le but. Le but, c'est vraiment qu'ils soient bien dans leur peau. Mais de fait, il y a effectivement beaucoup d'enfants qui demandent à leurs parents de jouer d'un instrument. Donc, ils vont commencer avec la guitare.
Depuis 15 ans, là, vous n'avez pas un petit virtuose ou deux là, qui sont sortis?
Alors, écoutez, en tout cas, il y a une proportion bien supérieure à la moyenne nationale d'enfants qui sont dans des écoles de musique ou en conservatoire, etc. Avec des parents qui, initialement, n'étaient pas avec cette appétence.
Merci beaucoup, Claudia Caspiaï, d'être venue sur notre plateau nous faire découvrir la pédagogie musicale et ses bienfaits chez les tout-petits. Je rappelle le titre de votre livre, Petite enfance, de la musique avant toute chose, aux éditions Dunod. Merci encore.
Merci Mélanie, merci Jimmy.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, il sera question des médicaments à base de cortisone. À quoi servent les corticoïdes que votre médecin vous a déjà peut-être prescrits? On parlera aussi des éventuels effets secondaires de ces traitements. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'un type de médicament que vous avez peut-être déjà pris pour des douleurs articulaires ou même un problème ORL, les corticoïdes. Savez-vous précisément ce qu'ils sont, ces médicaments? Comment fonctionnent-ils? Et surtout, s'ils ont des effets secondaires? Benjamin Lévesque vous a interrogé sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
On peut avoir de l'eczéma, donc il existe des pommades avec de la cortisone.
C'est pas une substance qu'ils mettent justement dans les crèmes comme justement pour l'eczéma et tout ça là.
La cortisone, c'est un médicament dans une pommade ou une crème.
La cortisone, c'est un traitement qui aide à calmer les douleurs.
Ça accélère la guérison.
Dans la pommade, ça sert, il me semble, comme anti-inflammatoire.
Quand on en prend à forte dose, ça peut être dangereux pour la santé aussi. Hein. Ça fait grossir. Il y a un régime spécial, il ne faut pas prendre de manger salé.
Le corps en devient dépendant. Enfin, moi j'ai l'exemple aussi au niveau de l'eczéma.
Alors, je ne sais pas si c'est dangereux. En revanche, ouais, je ne serais pas d'avis de dire que c'est très bon pour le corps, quoi.
Alors Jimmy, bon, je ne sais pas ce que vous pensez du micro-trottoir. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'eczéma. Moi, ça, ce n'est pas le premier truc qui me serait venu en parlant des corticoïdes. Mais bon, je ne sais pas. On va reprendre du début, en tout cas. Rappelez-nous d'abord ce que sont précisément les corticoïdes, la cortisone. Ça sert à quoi? Enfin,
c'est la cortisone, ça fait partie des anti-inflammatoires stéroïdiens. On a les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'aspirine, l'ibuprofène. Mmh. Et ces anti-inflammatoires visent à lutter l'inflammation. On peut les utiliser dans de courtes périodes, dans des infections notamment ORL ou des allergies, puis parfois sur le très long terme, responsable d'éventuels effets secondaires. Et attention, il ne faut pas confondre les corticoïdes sous forme de comprimés, sous forme de crème. Là, on a parlé d'eczéma.
Là, il parlait beaucoup de crème, les gens.
Ils n'ont quasiment aucun effet secondaire. Et en France, il y a une corticophobie. On a très peur des corticoïdes, notamment dans l'eczéma. Or, il n'y a aucune raison. Quand ils sont bien utilisés sous forme de crème, aucun problème.
Alors, on ne va pas rentrer dans le détail non plus parce que c'est un peu compliqué, mais comment ils fonctionnent ces médicaments?
C'est vrai que le mécanisme est vraiment très très compliqué.
Complexe et multiple, c'est
alors,
vraiment
difficile. La cortisone vise à simuler le cortisol qu'on a de façon naturelle au travers de certains récepteurs. On a des récepteurs aux glucocorticoïdes. Ces glucocorticoïdes servent.
Ces récepteurs, on en a dans toutes nos cellules.
Mais
c'est
dans des quantités un peu différentes. Ouais. Et quand on essaie de bloquer ces récepteurs, on essaie de lutter l'inflammation. Et puis, on a aussi dans le cortisol des minéralocorticoïdes, stéroïdes, donc un autre système inflammatoire, mais qui sert à réguler d'autres mécanismes pas présents avec le comprimé. Bref, un mécanisme assez compliqué, mais le principal effet, c'est lutter contre
l'inflammation. D'accord. Alors, on les utilise dans quelle pathologie? Vous avez dit, bon, l'eczéma, on l'a entendu. Vous parliez, il y en a plusieurs sortes hein, de pathologies.
Oui, dans les pathologies inflammatoires chroniques, la polyarthrite rhumatoïde, les spondylarthrites ankylosantes.
Dans l'asthme, certaines... moi j'en ai pris pendant des années quand j'étais enfant.
Dans l'asthme, parce que ça lutte contre l'inflammation en cas d'exacerbation sévère de la maladie, dans certaines allergies, et puis dans certaines maladies comme la bronchite chronique, ou sur de courtes périodes, vous l'avez dit, la laryngite, ça marche très bien, la sinusite, encore une fois, Mais attention, des règles bien définies de prescription.
Alors, quels sont les risques ? Là, pareil, on ne va pas pouvoir en parler pendant des heures, mais grosso modo, enfin, on en a quelques-uns en tête. Dans le micro-trottoir, on disait ça fait grossir, le sel. Dites-nous en plus.
Alors, sur le court terme, très peu d'effets secondaires. Parfois, ça excite un peu les gens, on a du mal à dormir, on a une humeur un peu exaltée, on peut être un peu énervé. Sur le long terme, des effets secondaires qui peuvent être importants : prise de poids, rétention d'eau, risque de diabète car on fabrique plus de glucides, risque de cholestérol car en fait, le tissu adipeux est plus sensible aux corticoïdes. Et à la graisse. On a un effet d'hypertension artérielle, une peau qui s'atrophie, des muscles qui sont moins puissants, une amyotrophie,
ça fait un peu peur,
et puis
là,
une atteinte osseuse importante. On peut avoir de l'ostéoporose lorsqu'on a plein de cures de corticoïdes, mais ça c'est sur des grosses doses ou sur un effet très long. Et tout à l'heure, un monsieur a dit ça peut entraîner une dépendance. En fait, les surrénales deviennent endormies, elles ne produisent plus de cortisol car on l'apporte de façon exogène dans l'environnement. Donc voilà, il peut avoir de nombreux effets secondaires mais qui sont bien jugulés en règle générale.
Et surtout en parler avec son médecin. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc. Une question, lors du premier rapport sexuel, la perte de sang chez la femme est-elle un passage obligé ? Catherine nous dira tout, mais avant ça, on profite d'un peu de musique, on écoute le groupe Coolio avec son titre culte Gangsta Paradise.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui Catherine, on a une question de Vincent, 23 ans, je vais vous lire sa question. Lors de sa première fois, mon amie me disait être vierge, mon amie IE, m'a demandé de prendre notre temps, elle nous avait demandé de prendre notre temps avant de faire l'amour. J'ai attendu 6 mois et nous avons fini par faire l'amour, mais là, qu'elle ne fut pas ma surprise, elle n'a pas perdu de sang. Je doute qu'elle ne soit pas réellement vierge. Qu'en pensez-vous, Catherine ? Alors, Catherine, un petit copain anxieux, allons droit au but. Est-ce que c'est obligatoire de saigner la première fois pour une femme ?
Absolument pas.
Donc, est peut-être vierge, hein, sa copine, évidemment.
Absolument. Et je trouve ça tout à fait intéressant parce que, bien sûr, que ça pose la question. On peut se demander pourquoi il aurait fallu absolument qu'elle fasse la preuve de sa virginité. Certains hommes ont le sentiment qu'ils doivent être là, ils doivent venir planter le drapeau en haut d'une montagne.
Comme le premier pas sur la Lune.
Exactement. Bon, peut-être qu'on peut aussi laisser l'autre exister sans vouloir le posséder et le posséder par ce symbole.
Il a juste peur, peut-être qu'elle lui ait menti aussi. C'est peut-être
peur
ça.
Qu'elle ait menti, puis aussi peur surtout de s'être fait traîner en longueur sur une attente au nom d'une virginité qui en fait n'était pas. Je pense que c'est surtout ça son problème, c'est que j'ai dû attendre, j'ai été patient et finalement elle m'avait menti parce qu'elle n'était pas vierge. La réalité, c'est peut-être parce que justement la relation s'est établie très tranquillement, qu'elle s'est étirée sur le temps, que du coup sa peur n'a pas été la même et que comme sa peur n'était pas, eh bien, sa capacité de se détendre était plus importante, que du coup son ouverture était plus importante.
Parce que techniquement, ça doit quand même briser l'hymen et l'hymen, il saigne pas toujours en fait, c'est ça ?
Alors, non, pas toujours. D'abord parce qu'il n'est pas nécessairement fermé de façon comme un coffre-fort. Mm-hmm. Parce qu'une jeune fille, des petites filles, bah, ça fait des grands écarts. Des jeunes filles, ça bouge dans tous les sens.
Donc on peut l'avoir un peu détérioré déjà avant.
Oui,
quoi, c'est ça.
Et puis de toute façon, tout ça, et j'allais dire, le corps a évolué dans sa maturité très naturellement. Ce n'est pas l'homme qui fait la femme. Ce n'est pas l'homme en déflorant une femme qui la rend femme. Une femme aboutie dans son corps de femme va naturellement vers une ouverture, de toute façon. Et l'erreur est de penser, il ne faut pas confondre le vagin, le sexe d'une petite fille, avec le sexe d'une femme mature. Et il faut arrêter de donner à l'homme le pouvoir de rendre une femme femme, pénétrable, pénétrée. Son corps en est en tout à fait capable. Et ce d'autant plus si elle n'est pas brusquée dans une sexualité. Et que parce qu'elle est dans une relation qui a un peu plus de temps, elle est enamourée et du coup excitée à l'idée d'eux, elle a fait cheminer cette idée, du coup elle est dans les meilleures conditions pour faire l'amour et donc de fait elle ne perd pas de sang.
Jimmy ?
Et puis peut-être qu'elle avait tout simplement peur d'avoir mal et que ce petit mensonge, si c'en est un, bah c'était peut-être pour qu'il soit un peu plus délicat et qu'il soit un peu moins, on va dire, direct et qui prennent un peu plus de temps.
Oui, en tout cas, il est normal qu'une femme, vous imaginez, le fait d'être pénétrée, il faut bien le sentiment, l'excitation ou le sentiment amoureux pour avoir envie d'une telle aventure. Sinon, tranquille, qui a envie que quelque chose pénètre son propre corps ? Notre corps expulse des choses, il ne les reçoit pas facilement, sans inquiétude. Il y a même un temps dans l'enfance où l'enfant ne reçoit pas facilement la nourriture parce qu'il devient phobique de tout. Donc,
Ça se passe à deux ans, je peux le confirmer.
Voilà, et donc du coup, on ne mange plus rien ou pas grand-chose. Eh bien, là aussi, ce n'est pas facile d'accueillir le corps de l'autre, qui plus est, un pénis en érection, d'un jeune homme qui a peur, lui, de débander, donc il faut y aller là, tambour battant, là, maintenant, tout de suite, parce que sinon, je vais perdre mon érection. C'est assez anxiogène. Donc, effectivement, bien sûr que les jeunes filles peuvent avoir peur. Et plus elles sont inquiètes, plus, évidemment, tout laisse à penser que ça va faire mal parce qu'elles ont les cuisses serrées, parce qu'elles se mettent mal, elles se cambrent, elles se tordent. Et du coup, évidemment, le pénis heurte le pubis ou c'est un os, c'est pas du tout une entrée possible. Donc, tout vient concourir. Donc, effectivement, certaines vont dire c'est ma première fois.
Mais de toute façon,
c'était sa première fois avec lui. Voilà. Et c'est une nouvelle rencontre. Et c'est un début de vie génitale, et donc c'est extrêmement légitime. Où est le mensonge à ça, si ce n'est le respect de soi?
Pourquoi les garçons d'ailleurs se posent souvent cette question, alors que nous on leur demande jamais est-ce que t'es puceau ou est-ce que t'as déjà eu une première fois? Ça se pose moins souvent, une femme pose moins la question, une jeune femme pose moins souvent la question à un homme que l'inverse?
Alors elle la pose moins parce que d'abord un puceau les inquiète plus qu'autre chose. Parce qu'un puceau c'est quelqu'un qui saura pas faire, comme elles-mêmes ne savent pas très bien ce qui va se passer en elles, elles ont besoin de quelqu'un qui va plutôt avoir une dextérité imaginée, à défaut d'être réelle, pour pouvoir les pénétrer et leur faire découvrir ce qui va pouvoir se vivre en elle. Donc elle pose pas trop la question du puceau, parce que le puceau est plutôt inquiétant, sauf quand deux jeunes,
jeunes tourtereaux
veulent grandir ensemble, avancer ensemble, découvrir ensemble, ou alors une jeune femme déjà très aboutie qui va dire bah, « Allez, viens, je te donne cette occasion de découvrir les choses », ce qui est très charmant aussi.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos précieux conseils. On vous retrouve bien sûr demain pour une autre chronique sexo. Demain dans notre grand dossier, il sera question de burn-out. Comment le travail peut-il nous rendre malade? Quels sont les signes et comment revivre après ça? On en discutera avec notre invité, le docteur François Baumann. Mais tout de suite, on retrouve comme chaque jour Mathieu Noël et son équipe sauvage. Et aujourd'hui, c'est Isabelle Nanty, leur invitée. Ça risque d'être très sympa. Nous, en tout cas, on sera à l'écoute. Et vous aussi, restez sur Europe 1.